Chapitre 16. Une voix dans la nuit. Le lendemain soir, comme l'avait annoncé le capitaine Ross, le Sigoul mouillait à un mile de Santa Cruz. Le canot était armé aussitôt et se dirigeait vers la côte. Il fit 4 voyages, puis quand le réapprovisionnement eut été effectué, on leva l'ancre et l'on se remit en route. Pickman était rayonnant. « Vous voyez, me dit-il, personne n'est venu nous déranger. Je crois, mon cher Colombo, que vous exagériez un peu. Les autorités maritimes n'en finiraient pas si elles devaient visiter tous les navires qui s'arrêtent dans les ports. Il n'en sera pas de même à Rio de Janeiro, je vous l'assure. Vous croyez ? Oh, je puis vous l'affirmer. Ah ! » Pickman devint songeur. Il se ressaisit cependant et proposa un poker, mais au bout d'une demi-heure, il posa les cartes et se remit à bavarder. Il fallait à tout prix que cet homme parlât. Il avait besoin de s'étourdir pour chasser les noires pensées qu'il assaillait sans trêve. Il parla à tort et à travers, raconta des histoires stupides qui faisaient rire Madame Pickman, lança des plaisanteries de table d'hôte, puis éprouva le besoin de s'occuper un peu de l'avenir. Bien, une fois à Rio de Janeiro, dit-il, je louerai une villa, quelque chose de grand, de luxueux, je donnerai des soirées. J'aurai une auto, des chevaux et de nombreux domestiques. Je ne sais pourquoi, mais il me semble que je me plairai au Brésil. J'ai entendu dire que Rio était une ville très agréable et que l'on y menait la grande vie. Vous resterez avec nous, Colombo, vous serez notre intendant et je vous paierai grassement. Ah, je vous remercie, répondis-je, mais je ne puis accepter votre offre. Et pourquoi cela ? Parce que j'ai en Angleterre une femme et 4 enfants. Une femme, pas encore, mais 4 enfants, je vous plains. Enfin, on peut arranger cela, vous ferez venir votre femme. Elle sait coudre au moins, oui. Eh bien, nous lui confierons la direction de la lingerie. Quant à vos enfants, bon, je trouverai bien le moyen de les employer. Nous verrons, dis-je, je réfléchirai. C'est cela, Colombo, réfléchissez, rien ne presse. Nous avons encore 20 jours devant nous, un mois peut-être, alors je crois qu'il est temps de se mettre au lit. Et bonsoir. En rentrant dans ma chambre, je trouvais Zanzibar tout en larmes. « Mais qu'as-tu donc ? » demandai-je. Le pauvre nègre ne parvenait pas à articuler une parole. Enfin, il finit par me faire comprendre que pendant mon absence, Cardiff était venu, l'avait surpris en train de jouer de la musique et l'avait brisé nos 2 boîtes à cigares. La perte de ses instruments mettait le désespoir dans l'âme de l'infortuné Zanzibar. J'arrivais cependant à le consoler en lui promettant de lui confectionner un banjo. « Oh ! Soupira-t-il, un banjo ?» Il sauta de son lit pour venir m'embrasser les mains. Il fallut que je lui expliquasse comment je le fabriquerais, ce banjo, avec quoi, et c'est seulement quand j'eus satisfait sa curiosité qu'il consentit à se recoucher. Pauvre garçon, oh, sa vie n'était pas compliquée à celui-là. Pourvu qu'il eût une musique et qu'on ne lui donnât pas de coups de corde, il était heureux comme un roi. Pendant qu'il reposait en rêvant sans doute de banjo, moi, dont la tête était bourrée de projets, j'étais plongé dans de ténébreuses méditations. Soudain, une idée me vint à l'esprit et je résolus immédiatement de la mettre à exécution. Je me levai, ouvris sans bruit la porte de la chambre et pieds nus me glissai dans la coursive. Arrivé devant la cloison de pitch-pain derrière laquelle je savais que se trouvait le lit de Pickman, je donnai 2 grands coups de poing dans le panneau. « Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? » demanda Pickman, réveillé en sursaut. Alors, collant ma bouche contre le bois, je prononçai d'une voix nasillarde,
Richard Stone.
Qui m'appelle ? Bégaya Pickman, encore à moitié endormi.
Richard Stone,
répétai-je en haussant le ton.
M'entendez-vous ?
Cette fois, Pickman ne répondit pas. Le coup était porté. Je regagnai ma chambre à pas de loup et me remis au lit. J'étais sûr maintenant que Richard Stone, le voleur de la Banque d'Angleterre, habitait bien dans la peau de Pickman. En répondant « Qui m'appelle ?», le misérable s'était trahi. Il s'était ensuite ressaisi, mais trop tard. Je m'étais donc assuré de la véritable identité du personnage. À présent, je le tenais, avant 8 jours, il serait à ma merci. Le lendemain, quand je servis le déjeuner de mes 2 amis, je remarquai qu'ils étaient très pâles. C'est à peine s'ils touchèrent au plat que je leur présentai. Eux qui, d'ordinaire, étaient si loquaces, demeurèrent muets pendant tout le repas. « Mais que vous est-il donc arrivé ?» demandai-je. « Vous êtes tout drôle aujourd'hui. » Pickman jeta un coup d'œil à sa femme, puis répondit, en s'efforçant de sourire, « Oh, nous avons mal reposé cette nuit-là. « Mère était un peu dure et nous avons encore le cœur tout barbouillé. »« Oh, ce ne sera rien, » dis-je, en regardant fixement Pickman. « Allez vous étendre au grand air, là-haut, sur le pont, et vous verrez que dans 1 heure, vous ne ressentirez plus rien. Voulez-vous que j'aille vous préparer vos rocking chairs ?»« Non, c'est inutile, je vous remercie. »« Vous avez tort, l'air vous ferait du bien. » Pickman ne voulut rien entendre. Il était bien décidé à rester dans sa cabine. « Oh, ce sera comme vous voudrez, lui dis-je. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose, je suis à votre disposition. Vous n'aurez qu'à me sonner. » Et je fis un pas vers la porte. « Non, non, ne vous en allez pas, Colombo !» s'écria Pickman. « Restez !» Madame Pickman avait regagné sa chambre. Son mari s'était étendu sur le sofa du salon et s'efforçait de fumer un cigare qu'il rallumait à chaque instant. Pour m'occuper, je frottais avec un chiffon de laine les meubles en acajou qui garnissaient la pièce. Tout à coup, Pickman se leva, fit quelques pas de long en large, puis vint se planter devant moi. Il voulait me demander quelque chose, cela était visible. Pourtant, il hésitait. « Mon cher Colombo, dit-il enfin, vous devez être au courant de tout ce qui se passe sur ce navire. »« Bon, ma foi, pas plus que ça, car je le vis presque continuellement dans l'entrepôt. »« Oui, je sais, mais avant d'être à mon service, vous faisiez partie de l'équipage, vous circuliez partout. »« À peu près. » Par conséquent, vous avez dû voir l'autre passager. L'autre passager. Oui, il paraît qu'il y a à bord un gentleman qui ne bouge pas de sa cabine. Mais qui vous a dit cela ? Quelqu'un qui est bien renseigné. Le capitaine ? Non. Je voyais bien que Pickman était gêné. Il plaidait le faux pour savoir le vrai, mais il s'y prenait d'une façon stupide. Il reprit d'un petit air entendu. « Hein, Colombo, vous ignoriez que nous eussions un étranger à bord. Je ne sais pas quel est cet individu ni pourquoi il se cache avec tant de soin. Ce doit être quelque original, à moins que ce ne soit un malfaiteur. Informez-vous donc, tâchez de savoir quelque chose. » Il serait vraiment scandaleux que le capitaine eût embarqué un homme sans me prévenir. J'entends être seul à bord de ce bateau, seul, entendez-vous. J'ai payé assez cher pour avoir le droit d'être le maître ici. Évidemment, approuvai-je. Mais perdez pas un instant, Colombo. Faites une enquête. Au besoin, donnez quelque argent aux matelots pour provoquer leur confidence. Tenez. Et Pickman me glissa dans la main une poignée de livres. « Non, non, m'écriai-je, gardez cela. Je les ferai bien parler, soyez-en sûr. » Et je rendis à Pickman les pièces d'or qu'il m'avait données. Bien entendu, je ne fis aucune enquête et pour cause. Après avoir quitté mon voleur, j'allais retrouver Zanzibar et me mis à confectionner le banjo que je lui avais promis. Cela me prit près de 4 heures, mais je fis un instrument très présentable qui avait de plus une sonorité merveilleuse. Le nègre ne se tenait plus de joie. Il s'empara du banjo et se mit à en jouer avec amour. J'avais fait un heureux. Quand je revis Pickman, je le trouvais un peu plus calme. « Et alors ?» demanda-t-il en me frappant sur l'épaule. « Rien. Le passager. Il n'y a pas de passager. Mais cependant, je vous affirme, j'ai visité le bateau de fond en comble, du pont à la cale, et je puis vous assurer que Madame Pickman et vous êtes les seuls maîtres à bord. » Pickman me regardait avec 2 yeux inquiets. Supposait-il que je ne lui disais pas la vérité? Se méfiait-il de moi? Il crut devoir, pour se concilier mes bonnes grâces, jouer une petite scène d'attendrissement qui était assez nature. « Mon bon Colombo, dit-il, vous savez l'amitié que Madame Pickman et moi avons pour vous. Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour assurer votre avenir et celui de votre famille. Voyons, parlez-moi franchement comme un ami. Ne craignez pas de vous confier à moi. Je sais que Master Ross est votre chef et que vous lui devez obéissance, mais cet homme ne fera jamais pour vous ce que je suis disposé à faire. Il vous donne des gages ridicules, il abuse de vous. » Ici, Pickman s'interrompit, cherchant ses mots, puis il reprit. « Entre le capitaine et moi, vous ne devez pas hésiter. Il est votre maître, mais moi, je suis votre ami. Dites-moi la vérité, toute la vérité, et je vous jure que ce que vous me confierez ne sera point répété. Master Ross vous a défendu de parler, n'est-ce pas ?»« Non, je vous assure. »« Si, 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 il vous a défendu de parler. » Il vous a intimidé, menacé, mais vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez tout me dire. Qu'il y ait un passager à bord, cela m'est égal, mais je veux le connaître. Mais je vous donne ma parole que personne ne se cache sur ce navire. On vous a mal renseigné, ou plutôt, on a cherché, dans un but que je ne puis pas comprendre, à jeter le trouble dans votre esprit. Pickman parut très embarrassé. « C'est bien, dit-il, mais vous savez, vous ne m'avez pas convaincu. »« Je le regrette. »« Malgré tout, vous êtes encore mon ami, n'est-ce pas ? Oh, pouvez-vous en douter ? Et si par hasard vous appreniez qu'il se trame quelque chose contre moi, vous m'avertiriez, je suppose. »« Je vous le promets. »« Bien, Colombo, merci. » Je vois que vous êtes un brave garçon et que je puis compter sur vous. Ouvrez l'œil, écoutez ce qui se dit. Répétez-moi tout. Un mot qui, pour vous, n'aurait aucune importance, peut-être pour moi une indication précieuse. Plus tard, vous comprendrez. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Pickman, en parlant, avait les larmes aux yeux. J'avoue qu'il me fit pitié, mais je ne pouvais plus revenir sur la décision que j'avais prise. La partie était engagée, j'avais de sérieux atouts dans mon jeu, il s'agissait de ne pas perdre la tête. Avant 8 jours, je serai le maître de la situation. Chapitre 17. Un coup de Trafalgar. Je ne sais à combien de miles nous étions des Canaries, quand un matin nous commençâmes à danser de façon inquiétante. J'ouvris le hublot de ma chambre et observai la mer. La brise s'était levée, le ciel, qui s'assombrissait de plus en plus à l'horizon, passait rapidement du gris plombé à la nuance terne de l'étain. Par instants, de petites langues de feu couraient entre les nuages, des vagues marbrées d'écume blanche se poursuivaient sans relâche et l'eau prenait une teinte sinistre. C'était le gros temps qui s'annonçait. Bientôt le vent se mit à chanter, puis à ronfler comme un orgue géant, chassant devant lui des fumées d'embrun. Les lames s'élevaient de plus en plus et venaient s'abattre en claquant contre la coque du Sigoul. Je refermais le hublot par lequel venait de pénétrer un paquet de mer. « Ça beaucoup mauvais, Monsieur Colombo, » me dit Zanzibar qui se tenait derrière moi. « Tu vas voir tout à l'heure. » Sur le pont, on entendait des pas précipités et la voix du capitaine Ross qui hurlait comme un fou. « Upstairs, topment, hold down topsails, large peu, make a stirst. » La goélette courait au plus près en faisant des sauts de carpe et, trop chargée de toile dans les hauts, gîtait sur bâbord avec une bande terrible. Zanzibar et moi étions obligés, pour conserver notre équilibre, de nous cramponner à l'épontille de notre cabine. Le bon nègre, qui naviguait depuis longtemps et avait déjà essayé et essuyé pas mal de coups de Trafalgar, riait comme un enfant et ne cessait de répéter « Tu vas voir, Monsieur Colombo, ça joli foxtrot tout à l'heure !» J'étais loin de partager la confiance du brave garçon, car je me demandais avec angoisse si le Sigoul résisterait à la tempête. C'était en somme un bateau de plaisance, et bien qu'il parût robuste, il était à craindre que la bourrasque ne l'endommageât sérieusement. Il ne manquerait plus que ça, faire naufrage en plein Atlantique et couler par le fond avec mon régent. Et la prophétie d'une vieille tireuse de cartes de Russell Street que j'avais consultée quelques années auparavant me revenait à l'esprit. Cette bonne femme, qui s'appelait Miss Mowlhouse, m'avait en effet prédit que j'étais menacé de périr par immersion et que par conséquent je devais redouter les voyages sur l'eau. Et si tout de même elle avait dit vrai. Cependant, une chose me rassurait. Ne m'avait-elle pas dit aussi que je finirais mes jours dans l'opulence? Laquelle de ces deux vérités est-elle une vraie prédiction? Oh, je ne crois guère aux prophéties des tireuses de cartes, mais le vieux fond de superstition qui sommeille au cœur de tout homme se réveillait en moi au moment du danger. On a beau jouer à l'esprit fort, il y a des moments dans la vie où l'on est malgré soi hanté par ces influences singulières que M. Lloyd George, lecteur passionné du grand Will, est mystique, comme tous les Gallois, désigne dans ses mémoires, encore un qui a écrit ses mémoires, sous le vocable assez abscon d'advertisements. Zanzibar, lui, qui n'était pas du pays de Galles et n'avait jamais lu Shakespeare, ne s'embarrassait pas de semblables futilités. Il riait, imitait le bruit du vent, celui des vagues heurtant la coque du Sigoul, et se livrait à des contorsions grotesques chaque fois qu'une secousse menaçait de lui faire perdre l'équilibre. Mais il y eut soudain une violente rafale suivie bientôt d'un claquement sinistre. Le vent, comme je l'appris quelques instants plus tard, venait de déchirer un hunier que l'on n'avait pas eu le temps de carguer, et la voile en lambeaux battait maintenant dans l'espace comme un énorme pavillon fouettant au bout de sa drisse. Je ne sais rien de plus impressionnant que le crépitement d'une voile humide qui, n'étant plus retenue par ses écoutes, se tourmente en tous sens pour se débarrasser de sa vergue. « Du monde au cargo-point, des basses voiles !» commandait le capitaine Ross d'une voix aiguë qui se confondait parfois avec le sifflement des cordages. Le Sigoul gémissait dans toute son armature, et la voile déchirée continuait de battre avec un bruit d'ailes formidable. Ce qui devait arriver arriva. Le mât, sous la pression de la toile, se rompit et tomba sur bâbord avec un fracas terrifiant. « Oh, ça mauvais !» cria Zanzibar, qui ne riait plus. Le Sigoul s'était incliné de telle façon que sa lisse effleurait l'eau. Il demeura dans cette position critique l'espace de 30 secondes environ, puis se redressa sous un coup de barre et lentement vira de bord. Maître Ross mettait le yacht debout au vent afin de pouvoir prendre des risques dans sa voilure, manœuvre qui s'exécuta rapidement, mais la brise franchissait de plus en plus et l'on fut bientôt forcé de capeyer. Les matelots, qui, je dois le reconnaître, avaient fait preuve d'une habileté merveilleuse pendant tout le temps que dura cette manœuvre, essayèrent ensuite de ramener sur le pont le mât qui pendait, retenu par ses haubans en dehors du Seagull, et dont la partie supérieure, toujours garnie de ses vergues, faisait fortement giter le bateau. Le capitaine Ross fit couper les haubans et les étais, et l'on parvint, au prix de difficultés inouïes, à ramener le maudit mât sur le pont. Poussé par la curiosité, je m'étais hissé jusqu'au panneau avant. Une vive agitation régnait parmi les matelots qui, après avoir tenté une réparation de fortune, finirent par y renoncer. Sur un petit bateau, on peut à la rigueur remplacer un mât par un espar, mais sur un bâtiment d'un tonnage un peu élevé, cela est impossible. Tout ce que l'on pouvait faire, c'était de résister à la bourrasque, d'étaler le cou, comme on dit, mais ensuite, il serait impossible de continuer le voyage. Il faudrait rallier quelque port afin de se procurer un nouveau mât, ce qui demanderait au moins une huitaine et peut-être davantage. Maître Ross était furieux, il s'en prenait à tous les hommes de l'équipage comme s'ils eussent été solidairement responsables de l'accident. Mais j'entendis son second qui disait d'un ton maussade « On a cargué trop tard !» La vérité, c'est que ce jour-là, Maître Ross, qui était légèrement pris de boisson, oh, cela lui arrivait 5 jours sur 7, avait totalement manqué de présence d'esprit, et soit que sa vue fût troublée, soit qu'il pensât à autre chose, n'avait pas vu venir le grain. Quand il avait commandé d'arriser, il était plus temps. Heureusement qu'il avait eu la précaution de faire, quelques heures auparavant, rouler les hautes voiles, car sans cela nous n'aurions pas pu éviter la catastrophe. Pour le moment, nous fuyions vent arrière et refaisions par conséquent la route que nous avions déjà parcourue après avoir quitté les Canaries. Quand la tempête se fut calmée, j'allais rejoindre M. et Mme Pickman qui devaient être dans les transes. Je les trouvais en effet très émus et aussi très malades. Ils étaient étendus sur le tapis de leur salle à manger, en proie à de terribles nausées. Tous deux étaient encore en costume de nuit, le mari en pyjama, la femme en chemise. C'est à peine s'ils relevèrent la tête lorsque j'entrais. « Ah, c'est vous, mon bon Colombo !» bégaya Madame Pickman. « Mais que s'est-il passé, grand Dieu ?»« Ben, nous avons eu une avarie, » répondis-je. « Grave ?» demanda Pickman. « Oui, notre mât de misaine s'est rompu. »« Alors, je ne sais pas ce que va faire le capitaine. » « Ah !» soupira la femme, « il n'y a qu'à nous que ces choses-là arrivent. Tout avait si bien marché jusqu'ici. »« Espérons, dis-je, que ça s'arrangera. » Madame Pickman, qui semblait moins malade que son mari, était parvenue à se mettre debout. Elle était dans un état pitoyable. Ses faux cheveux avaient glissé sur son oreille gauche, et sa chemise, déjà très échancrée, avait glissé de ses épaules, découvrant une opulente poitrine que j'aurais cru moins ferme. « Voyons, mon petit Colombo, me dit-elle, parlez-nous franchement. Que va-t-il arriver? Nous ne sommes pas en danger, au moins. Vous avez l'air inquiet, je suis sûr que vous ne dites pas tout ce que vous savez. » Elle redressa ses faux cheveux, remonta vivement sa chemise et reprit « Ne nous cachez rien. Monsieur Pickman et moi, nous voulons tout savoir. » Mais aucun danger ne vous menace, répondis-je. Bien sûr, je vous l'affirme. Pickman s'était assis sur le divan et se tenait la tête à deux mains. Il souffrait, cela était visible, et n'avait même pas la force de m'interroger. Il me rappelait ce personnage d'opérette qui, terrassé par le mal de mer, répond à un chef de pirates « Pardonnez-moi, mais ne me remuez pas !» La femme, plus énergique, s'inquiétait de la situation. Elle me posait, d'une voix entrecoupée de hoquets, des questions rapides dans lesquelles cette même phrase revenait sans cesse. « Mais si nous sommes en danger, dites-le » Je la rassurai du mieux que je pus, et j'allais me retirer quand on frappa à la porte. « Entrez !» dit Madame Pickman, sans même prendre la peine de jeter un manteau sur ses épaules. La porte s'ouvrit doucement, et la grosse figure rougeaude du capitaine Ross apparut dans l'entrebâillement. Oh, « Pardon, dit-il un peu confus, je croyais... » Il allait battre en retraite quand Madame Pickman le rappela. « Voyons, capitaine, parlez, qu'y a-t-il ? » Le vieux loup de mer, sa casquette galonnée à la main, salua gauchement. « Je voulais dire à Monsieur Pickman, fit-il, que notre mât de misaine s'est rompu et que nous ne pouvons continuer notre route. « et alors ?» s'écria Pickman, qui avait subitement retrouvé son énergie. « Alors, monsieur, nous allons être obligés de regagner les Canaries et de nous réfugier dans le port de Santa Cruz afin de réparer la Marie. Oh, cela demandera une huitaine de jours environ. »«
8 jours ? »
murmura Pickman. « Oui, au moins, à condition toutefois que nous puissions trouver des charpentiers qui exécutent immédiatement le travail. »
« Mais si nous n'en trouvons pas ?»«
Bon non, ce sont pas les charpentiers qui manquent à Santa Cruz. Mais ce port est très fréquenté. Peut-être y a-t-il dans les cales d'autres bateaux que la tempête a endommagé. Dans ce cas, nous serions obligés d'attendre notre tour. »«
C'est bien, » dit sèchement Pickman en se reprenant la tête entre les mains.
L'effort qu'il venait de faire l'avait anéanti, et il se laissa retomber sur son divan où il demeura inerte. Comme personne ne lui adressait plus la parole, le capitaine se retira.
« Mais tout cela ne vous semble pas louche ? » me demanda Madame Pickman.
« Ma foi non, répondis-je. Maître Ross est bien obligé de relâcher dans un port. Comme Santa Cruz est le port le plus rapproché, c'est celui-là qu'il a choisi. Ne vous tourmentez pas, reposez-vous, je reviendrai vous voir avant le déjeuner. » J'avais déjà la main sur le bouton de la porte quand Pickman lança d'une voix pâteuse. « Rien, à part ça, Colombo ? » ?»«
Non, non, rien. » »«
Vous n'avez toujours pas vu l'autre passager ? » ?»«
Ah, mais vous y tenez, décidément. »
« Cherchez bien, car je suis sûr. » Une violente nausée l'empêcha de continuer.
« Ce pauvre homme, dit Madame Pickman, voyez comme il est malade. Vous connaissez pas un remède contre le mal de mer, mon bon Colombo ? Oh, je souffre horriblement, moi aussi, c'est affreux. Ce mauvais temps ne va donc pas cesser. »
« Couchez-vous, dis-je, dans 1 heure je vous apporterai du thé. » D'ailleurs, nous serons bientôt en eau calme.
Vous croyez ?
Oui, lorsque nous aurons atteint le port de Santa Cruz.
Ah !
Madame Pickman ne paraissait pas convaincue. Elle eût voulu sans doute m'interroger encore, mais les forces lui manquèrent et elle se laissa tomber sur le divan à côté de son mari. Re-18, où je mûris mon plan. J'allais retrouver Zanzibar qui préparait en chantant une horrible mixture destinée à l'équipage.
« T'y sais pas, tu » dit-il. « Bateau d'étourdi canari, sabot canari, plein de bananes, Moi, m'en collais plein le fusil. Là-bas, chez nous, banane plus jolie encore. Tu verras ça si tu viens avec moi. Et puis beaucoup de dattes aussi, et noix de coco. Tout plein, tout plein. Tu verras, Colombo, tu verras.
Je n'écoutais point. Trop de pensées pour l'instant se heurtaient dans ma tête. Ce qui m'inquiétait surtout, c'était cette escale que nous allions être obligés de faire à Santa Cruz. Toutes mes combinaisons, tous mes projets s'effondraient soudain, ou étaient pour le moment au moins retardés. Quelle nouvelle complication allait surgir encore? Ah, décidément, je n'étais pas au bout de mes peines. Jamais je n'ai tant réfléchi que pendant les 6 heures que le Sigoul mit à atteindre Santa Cruz. Et ces réflexions, comme on le verra bientôt, ne furent pas inutiles. Mon imagination, un peu endormie depuis quelque temps, s'était brusquement réveillée et avait échafaudé tout un scénario qui eût certainement émerveillé Alan Dixon. Cet homme qui m'avait fait tant souffrir, puisque c'était à cause de lui que j'avais tenté du treadmill, allait sans doute devenir ma providence. Mais n'anticipons pas. J'estime que lorsque l'on écrit ses mémoires, on doit classer par ordre tous les événements qu'on y relate et donner à chacun l'importance et la place qu'il convient. J'ai lu beaucoup de mémoires dans ma vie, les confessions du grand Jean-Jacques, les mémoires du chevalier de Grammont, ceux de Chateaubriand et de l'inimitable Berlioz, mais tout en admirant ces chefs-d'œuvre, je trouve que leurs auteurs, et M. de Chateaubriand surtout, ont trop insisté sur certains détails qui eussent certainement gagné à être un peu écourtés. Je ne doute pas que cette appréciation d'un cambrioleur ne fasse sourire certains critiques, mais chacun juge à sa façon, avec son bon sens. Ce que j'apprécie surtout dans les mémoires, c'est la franchise. Or, à part Rousseau qui a tout avoué, même les choses les plus « shocking », je suis obligé de reconnaître que les autres mémorialistes se sont un peu trop flattés et n'ont pas hésité à allonger leur récit pour nous faire mieux savourer les beautés de leur éloquence et les brillantes qualités dont les avait douées la nature. Je n'ai point l'outrecuidance de me comparer à ces maîtres, mais j'ai le mérite de ne rien céder de mes défauts et de ne point me regarder dans un miroir avec trop de complaisance. Je dis ce qui est, un peu brutalement parfois, et ne me fais jamais meilleur que je le suis. J'ai le malheur d'être un triste individu et j'ai le courage de l'avouer. Combien consentirait à en faire autant? Qu'on me pardonne encore cette petite digression, mais elle était, je crois, nécessaire, ne serait-ce que pour rappeler à mes lecteurs qu'Edgar Pype leur livre sa vie tout entière comme à des juges impartiaux. Puisse l'aveu que je fais de mes fautes me valoir quelque pitié de la part de ceux qui n'ont jamais cessé de suivre la belle ligne droite de l'honnêteté, et que l'amour du travail a préservé des écarts dont je me repens aujourd'hui. Le Sigoul, sous son grand foc et sa voile d'artibon, filait en tanguant vers les Canaries. Il avait marché plus vite que nous nous y attendions, car avant la nuit, il mouillait en rade de Santa Cruz, en face de Tenerife. L'île de Tenerife réunit, grâce à ses vallées, à son plateau et à ses côtes, tous les genres de températures, excepté celle de l'hiver. Beaucoup d'Anglais préfèrent même le séjour de Tenerife à celui de l'Italie, aussi Santa Cruz est-elle très fréquentée. J'eus l'occasion de le constater, car le capitaine Ross, dès que nous fûmes stabilisés sur nos ancres, fit armer le canot et m'envoya à terre avec quelques matelots pour chercher des provisions. La ville me parut agréable. Ses rues droites, larges, aérées, ont des trottoirs pavés de pierres rondes et inégales que bordent des dalles de lave. On rencontre là nombre d'étrangers, des négociants des différentes parties du monde que distingue leur costume national. Après avoir fait nos achats, nous nous offrîmes quelques chiroutes et plusieurs verres de vin de Madère, puis nous regagnâmes le bord. Cette petite promenade n'avait pas été inutile. Elle m'avait permis de jeter un coup d'œil sur le port où de nombreux bâtiments, les uns chargés de bananes, les autres de tonneaux de vin, s'apprêtaient à prendre le large. Je vis aussi deux ou trois vapeurs, dont l'un, qui portait le pavillon espagnol, allait se mettre en route pour Cadix, ainsi que me l'apprit un marin anglais qui fumait sa pipe à l'ombre d'une véranda devant un flacon de whisky. Dès que j'eus rallié le Sigoule et rendu compte de ma mission à Maître Ross, j'allais porter à M. et Mme Pickman le repas qu'avait préparé Zanzibar. Je les trouvais complètement remis de leur malaise. Ils avaient fait toilette et semblaient m'attendre avec impatience. « Ah, mon beau Colombo !» s'écria Mme Pickman dès que j'entrais dans la salle à manger. « Quelle aventure ! Oh, jamais j'aurais cru que le mal de mer pût rendre si malade. Si cela devait recommencer, j'aimerais mieux débarquer tout de suite. » « Libre à vous, répondis-je. La ville est curieuse à visiter, et si vous voulez, après déjeuner, allez-vous dégourdir un peu les jambes ?»« Non, répondit sèchement Pickman. D'ailleurs, je ne me sens pas bien. » Il s'assit avec sa femme devant la table où je venais de déposer un plat de poisson et demanda soudain « Est-ce anglais, Santa Cruz ?» J'eus peine à réprimer un sourire devant tant d'ignorance. « Non, répondis-je, c'est une possession espagnole. » « Ah oui, c'est vrai, oh, je ne sais plus où j'avais la tête. J'espère qu'on ne va pas venir à bord faire une visite au moins. »« Ma foi, l'on sait rien, mais il est plus que probable que lorsque nous serons amarrés à quai, la douane fera son apparition. » Quoi, nous n'allons pas demeurer en rade ? Non, non, dans quelques heures, nous allons gagner le port. C'est nécessaire, on ne peut pas réparer en pleine mer. Vous êtes sûr de ce que vous dites, Colombo ? Oui. Pickman lança un coup d'œil à sa femme qui ne broncha pas. Il eut un silence, puis il reprit. La douane se contentera d'examiner les bagages, les grosses malles, les caisses. Je ne pense pas qu'elle ouvre les valises et les sacs à main. Qui sait ? Les douaniers prennent parfois plaisir à ennuyer le monde. Ce sont des êtres maussades qui, furieux de voir les gens voyager et se payer des distractions, quand eux demeurent rivés à leur poste, se venge en soumettant le touriste à une foule de formalités qu'ils compliquent à plaisir. J'ai connu un douanier anglais du nom de Nasty qui n'était jamais si heureux que lorsqu'il avait obligé une dame à déballer toutes ses toilettes et jusqu'à son linge le plus intime. Mais cependant, nous ne faisons pas de contrebande. Si on nous a laissé partir d'Angleterre, c'est que nous étions en règle avec la douane. » Ah, avec la douane anglaise, oui, mais ici, n'oubliez pas que nous sommes en Espagne. » Eh bien, dit Madame Pickman, pour que ces messieurs de Custom House n'aient pas le plaisir de chiffonner mes toilettes, je vais les étaler dans cette pièce. Madame Pickman exagérait évidemment quand elle parlait de ses toilettes, car sa garde-robe, comme la mienne, n'était pas des mieux fournies. Elle possédait en tout et pour tout une cape de drap noir ornée d'arabesques grenats, un costume tailleur, une jupe foncée et quelques corsages au ton criard. Quant à son mari, il n'avait que deux pauvres complets, celui qu'il portait tous les jours et un autre de teint verdâtre, accroché dans une armoire. Et quel complet, grand Dieu ! Ils eussent tout au plus convenu à Bill Sharper ou à Manzana. Comme on voyait bien que ces gens-là étaient dans une purée noire avant le coup qui devait les enrichir. Tout ce qu'ils possédaient était neuf, mâles, habits, linge, bottines. Ils s'étaient renipés vivement au « décrochez-moi ça », pressés qu'ils étaient de quitter Londres. Il était même assez extraordinaire qu'ils fussent parvenus à fuir, puisque avant leur embarquement, les journaux avaient déjà parlé d'eux. L'affaire avait fait beaucoup de bruit, beaucoup plus de bruit que celle du régent, car les journaux français, que j'avais lu avec la plus grande attention, n'avait pas soufflé mot de la disparition de mon diamant. À quoi devais-je attribuer ce silence? Était-ce un piège? Espérait-on ainsi donner confiance au voleur et le pincer plus facilement? Bon, je crois plutôt que l'administration du musée du Louvre, après avoir prévenu la police, avait jugé inutile de débruiter un vol qui devait la gêner un peu, et qu'en attendant l'arrestation du coupable, elle avait remplacé le régent par un bouchon de carafe quelconque. Tout en mangeant, Pickman et sa femme continuaient de bavarder, mais on les sentait inquiets. Je m'efforçais d'ailleurs d'augmenter cette inquiétude. Cela faisait partie du plan que j'avais élaboré. Je dosais mes effets avec l'habileté d'un Alan Dixon qui s'apprête à confondre un malfaiteur. « Bon, mais qu'avez-vous à craindre ?» fis-je d'un petit air sournois. « Vos papiers sont en règle, n'est-ce pas ?»« Oh, certes, très en règle !» bégaya M. Pickman en devenant rouge comme un piment. « Alors, tout est pour le mieux !» D'ailleurs, les douaniers ne nous demanderont pas nos papiers.
Ah, les douaniers, non, mais les gens de police...
Les gens de police ont-ils le droit de pénétrer ici?
Pourquoi pas? Pickman sursauta.
Mais je ne suis pas un malfaiteur, s'écria-t-il. Voyons, calmez-vous, y a-t-il là de quoi se monter? Vous êtes un honnête homme, vous avez des papiers, mais que pouvez-vous donc craindre?
Rien, assurément, mais je me rappelle maintenant que je n'ai pas fait viser mes passeports.
Bon, je ne les aviserai pas à la loupe. Il suffira de les présenter, et si on s'apercevait par hasard qu'ils n'ont pas été timbrés au départ, vous diriez qu'en Angleterre, certains personnages connus sont dispensés de cette formalité. Est-ce que vous croyez que M. Lloyd George, lorsqu'il va de Londres à Cannes ou à Paris, fait chaque fois viser ses passeports?
Ben, je suis pas Monsieur Lloyd George. Vous pouvez être un homme de qualité quand même.
Il y a à Londres beaucoup de Pickman. Il en existe même un qui, si je ne me trompe, est allié à la famille de Connaught. Ne seriez-vous pas celui-là?
Non.
Madame Pickman, qui jusque-là n'était demeurée silencieuse, ce qui me surprenait fort, que devoir ajouter « Nous sommes des gens de modestes conditions. »
Je le voyais bien, pardieu, elle n'avait pas besoin de me le dire.
Décidément, ils étaient plus stupides encore que je ne le supposais, et j'avais la partie belle avec eux. Comme ils s'étaient un peu rassurés, je crus devoir, avant de les quitter, leur donner un premier coup d'assommoir. « Ah, à propos, » fis-je d'un air distrait, « vous me souteniez l'autre jour qu'il y avait à bord de ce bateau un personnage mystérieux. »« Eh bien, c'est vous qui aviez raison. »«
Vous l'avez vu ?» demanda Pickman d'une voix tremblante.
« Oui, il y a une heure à peine. » « Mais pourquoi me l'avez-vous pas dit plus tôt ?»«
Bon, j'ai pas songé. »«
Comment est-il ?»«
Grand, entièrement rasé, assez élégant, ma foi. »«
Il me semble avoir déjà vu cette tête-là quelque part, à Londres, probablement. »«
Mais c'est lui !» lança imprudemment Madame Pickman.
Je la regardais. Pour expliquer le trouble qui l'agitait, elle ajouta en me prenant le bras,
« Écoutez, mon bon Colombo, puisque vous êtes un ami, nous pouvons tout vous dire. Eh bien, cet homme est un de nos parents. »«
Ah !
Oui, un affreux gredin qui nous a joué des tours pendables et qui veut aujourd'hui s'emparer de notre fortune. Il est capable de tout, même de nous assassiner. »«
Non, ne craignez rien, je suis là. »
« Ne pourriez-vous pas, demanda Pickman, le faire expulser du bateau par le capitaine? Si Maître Ross arrive à nous en débarrasser d'une façon ou d'une autre, Il y a 1000 livres pour lui. Non, 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 c'est moi qui vous en débarrasserai. Oh, mon cher Colombo, oh, que vous êtes gentil. Alors les 1000 livres seront pour vous, je vous le promets. Voulez-vous un acompte? Non, 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 j'ai confiance en vous. Mais comment nous en débarrasserez-vous? Mais d'une façon bien simple, en lui faisant piquer une tête par-dessus bord. Madame Pickman se jeta dans mes bras et me serrant à m'étouffer. « À la bonne heure !» s'écria-t-elle. « Au moins vous, vous êtes un homme !»« Oui, approuva Pickman, et un homme de décision. Mais prenez garde, le gaillard est habile. Et que dira le capitaine quand il s'apercevra de la disparition de ce passager ?»« Bon, soyez tranquille, je saurai m'y prendre. On croira à un accident. » Il paraît que cet homme, qui reste tous les jours enfermé dans sa cabine, se promène la nuit sur le pont. Je me dissimulerai derrière le rouf et, au moment où il ne s'y attendra pas, je me précipiterai sur lui et l'enverrai par-dessus le bastingage. « c'est cela !» fit Pickman en battant des mains. « Par-dessus le bastingage ! Oh, par-dessus le bastingage ! Oh, décidément, Colombo, vous êtes notre providence !» Et tenez, oh, ce n'est pas 1000 livres que je vous donnerai, mais 2000, oui, 2000, mais ma parole d'honneur. Je pris congé des Pickman écœurés. Décidément, ces gens-là étaient d'affreuses canailles, et je n'avais plus à les ménager. Chapitre 19. Aléage acta est. Le soir même, le Sigoul entrait dans le port de Santa Cruz, et s'amarrait à quai en face d'un dock. Après l'allumage des feux de position, Maître Ross nous réunit tous et nous adressa le petit speech suivant. Vous savez sans doute que nous allons demeurer ici une huitaine, peut-être plus. Nous allons donc profiter de cette relâche pour briquer le pont et faire les cuivres. Il faudra aussi laver les voiles et quand la toilette de l'extérieur sera faite, nous nous occuperons de l'entrepont et de la cale. Je ne veux pas cependant vous traiter en esclave. Je suis un brave homme, moi, et tous mes matelots sont mes enfants. Je vais établir un roulement. Un jour, ce sera la bordée de tribord qui sera libre, un autre jour, celle de bâbord. Seulement, je vous préviens, celui qui rentrera en état d'ivresse sera bouclé jusqu'à l'appareillage. Quant aux cuisiniers, et il désigna Zanzibar et moi, ils seront exempts de service un jour sur deux, à tour de rôle. Ceux qui voudront toucher une avance sur leur décompte n'auront qu'à venir me trouver. Je sais ce que c'est que s'amuser, j'ai été jeune moi aussi. Allez, rompez mes enfants. Je n'avais jamais vu le capitaine Ross si aimable. Je crois qu'il avait peur que quelques-uns de ses marins le quittassent pour s'engager sur un bananier. Les engagements contractés à bord du Sigoul n'avaient pas été visés par l'inscription maritime et il n'avait par conséquent aucun moyen de retenir ses hommes. Je trouvais Zanzibar désolé. Il se faisait une fête, le pauvre nègre, de descendre à terre avec moi pour rigoler un petit peu. Et voilà que le capitaine nous consignait l'un après l'autre à la cuisine. Cette décision n'était pas pour me déplaire, car j'avais besoin d'être seul, aussi bien à bord qu'à terre. Le grand coup que je méditais devait être préparé en secret. Zanzibar ne m'eût pas trahi, cela était certain, mais il m'eût gêné. Et j'étais heureux de me sentir libre. Il était facile maintenant d'aller à terre. Il suffisait pour cela de franchir la passerelle qui reliait le navire au quai. Je n'abusais cependant point des sorties, car je craignais que, pendant mon absence, mes deux Pickman ne commissent quelque imprudence. Chaque fois que je les voyais, ils me demandaient si j'avais aperçu le passager qu'ils désignaient maintenant sous le nom de Dicky, et sur lequel ils me fournirent un tas de renseignements stupides. Ne fallait-il point qu'ils parussent documentés sur ce parent scélérat qui convoitait leur fortune? Il est niais, se figurant que je donnais dans le panneau, comme on dit vulgairement, me bourrait le crâne avec ardeur. Ils allaient même un peu fort, surtout Madame Pickman, qui s'était prise pour moi d'une chaude, trop chaude amitié, et m'embrassait avec une passion vraie ou simulée dès que je me trouvais seul avec elle. Allait-elle me proposer aussi d'assassiner son mari? Ma foi, je commençais à le croire. Madame Pickman était certes une assez jolie brune, bien qu'elle fût déjà un peu marquée, mais elle ne m'inspirait guère, car j'aime les femmes avec lesquelles on peut encore causer quand on a fini de rire, et la conversation de cette opulente lady était d'une banalité désespérante. Son mari, lui, était certainement supérieur, alors pas qu'il n'eût rien d'un intellectuel. C'était un gros roublard, capable de rouler certaines gens, mais absolument sans défense lorsqu'il se trouvait en face de quelqu'un qui le dominait. Il était de plus dépourvu de sens moral, on en a eu la preuve. Trop lâche pour se débarrasser d'un ennemi, il n'hésitait pas à payer pour le faire supprimer. J'avais éprouvé, je l'avoue, quelque pitié pour lui en le voyant effaré, larmoyant, tassé dans son fauteuil comme un impotent. Mais à présent, il me dégoûtait et sa vue même m'était odieuse. Heureusement que j'allais bientôt lui tirer ma révérence. En attendant que tous mes préparatifs fussent terminés, je continuais de le terroriser en lui parlant du passager imaginaire, ce Dicky qui faisait, paraît-il, le déshonneur de la famille Pickman. Chaque matin, je lui rendais compte des faits et gestes de Dicky. Tantôt je l'avais aperçu en ville, tantôt je l'avais surpris rôdant dans la coursive d'entrepont. Ce misérable, me dit un soir Pickman, a dû s'entendre avec le capitaine et lui promettre une forte prime. C'est possible, répondis-je. Alors ce Ross serait un affreux gredin? Oh, j'ai bien envie de le faire appeler et de lui demander de quel droit il a accepté un étranger sur un bateau qui m'appartient pour 2 mois encore. Oh, mais gardez-vous-en bien. Si vous voulez tout compromettre, vous n'avez qu'à ça à faire. Au lieu d'avoir un ennemi, vous en aurez 2 à bord, et ma foi, alors là, je ne réponds plus de rien. Oui, Colombo a raison, intervint Madame Pickman. Ce serait la dernière des gaffes. Laisse donc agir, Colombo. C'est un homme intelligent, lui, et qui a de la décision. Certes, j'avais de la décision. Elle allait bientôt s'en apercevoir. Cependant, il fallait se hâter. Le capitaine Ross avait eu la chance de trouver un mât de goélette qui, une fois raboté à sa base, s'adapterait parfaitement dans l'emplanture de l'ancien, et sous 2 jours au plus tard, le Seagull serait en état de reprendre la mer. Le lendemain, c'était mon tour de sortie, je fis dans une boutique de Santa Cruz achat d'un revolver d'occasion, puis me rendis sur le quai à un endroit où l'on procédait au chargement des bananes. Il y avait là 2 vapeurs espagnoles, le Dona Isabel et le Pescador. J'appris par un homme d'équipage, un Anglais comme moi, que ces 2 bateaux se rendaient à Cadiz et que l'équipage de l'un, le Pescador, n'était pas au complet. Je me fis présenter au capitaine, un gros homme à la figure couturée de cicatrices et qui baragouinait un peu d'anglais. « Il me faut un soutier, un graisseur et un aide-chauffeur, me dit-il. « Je puis, répondis-je, remplir l'office de soutier. » « Je le pense bien, dit-il en riant. C'est pas un métier qui exige un long apprentissage. Bon, nous partons vendredi, c'est-à-dire dans 3 jours. Apportez-moi vos papiers au moment de l'appareillage. 75 pesetas par semaine, ça vous va? Oui, capitaine. Bien, entendu, au revoir. » J'étais embarqué. Il ne me restait plus qu'à trouver des papiers, mais j'espérais bien m'en procurer à bord du Seagull.
Il me suffirait pour cela d'aller faire une petite perquisition dans le gaillard d'avant. Cette nuit-là, je dormis mal. Le plan que j'allais mettre à exécution était des plus audacieux et aussi des plus délicats. Il s'agissait de ne rien laisser au hasard. Je répétais mentalement plus de 10 fois la scène que j'allais jouer dans quelques heures, car j'avais appris en revenant à bord que le Sigoul, complètement réparé, se remettrait en route le lendemain dans l'après-midi. À côté de moi, Zanzibar ronflait comme un orgue, et j'enviais la sérénité de ce bon nègre. Moi, j'allais me relancer dans l'aventure, et Dieu seul savait comment tout cela finirait. Vers le matin, je m'assoupis et dormis 1 heure environ, mais quand je m'éveillais, j'ai toujours eu le réveil triste, je vis tout en noir. Je n'avais plus aucune confiance en moi, une crainte que le raisonnement n'arrivait pas à vaincre me revenait continuellement à l'esprit. Je me levai et après avoir bu un café fortement additionné d'alcool, je retrouvai un peu d'énergie. « T'es pas bien guéri ce matin, » me dit le brave Zanzibar. « T'es pas content qu'il t'y Santa Cruz ? T'es malade peut-être ?»« Non, 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 mais j'ai mal dormi. »« Mais trop ronflis pas. T'y fallait siffler s'il ronflit trop fort. » Le bon Zanzibar avait une mine piteuse, mais sa gaieté naturelle reprit bien vite le dessus. Et il s'efforça par 1000 contorsions grotesques de me dérider un peu. Je m'étais attaché à ce brave garçon, et cela me faisait de la peine de l'abandonner. J'eus un moment l'idée de l'emmener avec moi, mais j'y renonçais. Seul, j'aurais sans doute bien du mal à me tirer d'affaire, mais avec un nègre pour compagnon, je risquais de compromettre ma manière, qui est, on le sait, de passer inaperçue. Pendant 2 heures, j'errai comme une âme en peine dans la coursive d'entrepont, puis profitant d'un moment où les hommes étaient réunis en haut pour l'appareillage, je me glissai dans le gaillard d'avant. Il y avait là une 10aine de hamas roulés sur leurs garcettes, et en face de ces hamas, le long de la cloison, des bottes de bois noir portant toute une étiquette et dans lesquelles les matelots serraient leurs effets de petit équipement et leurs papiers. Sur l'une de ces étiquettes, je lus un nom, Jim Corbett. J'ouvris la boîte qui était simplement fermée au moyen d'une petite lanière de cuir passée dans 2 pitons, m'emparai des papiers de Corbett que je mis vivement dans la poche de ma vareuse et regagnai aussitôt la coursive. Il était temps, déjà l'escalier du panneau avant craquait sous l'énorme poids de Cardiff. J'allais retrouver Zanzibar qui était en train de préparer le déjeuner de l'équipage et celui de M. et Mme Pickman. « Ah, t'y voilà !» s'écria le grec. « T'y sais, nous partis midi. »« Mais comment cela » m'écriai-je. « De qui tiens-tu ce renseignement ?»« De M. Cardiff, lui a dit faire déjeuner pour 10h30. » Je regardais l'heure au coucou de notre cabine, il était 9h20. Je m'habillai à la hâte, car j'étais encore en tenue de corvée, puis quand je fus prêt, je pris un flacon de rhum, rempli 2 petits gobelets d'étain que je pris sur une étagère, et dis à Zanzibar, « À ta santé, mon vieux !»« À la tienne, monsieur Colombo !» répondit le brave nègre, en me regardant avec étonnement. « Tu bois beaucoup de rhum aujourd'hui ?» « Oui, Zanzibar, car je me sens un peu malade, j'ai besoin de me redonner du cran, beaucoup de cran. » Nous trinquâmes, Zanzibar vida son gobelet d'un trait, le reposa sur la planchette placée à côté du fourneau et me regarda longuement. On eût dit que le pauvre garçon devinait que j'allais le quitter. « T'es tout drôle, monsieur Colombo, » me dit-il. « Tu devrais t'y coucher un peu. » Il était maintenant 9h30. Je m'assurai que mon revolver était toujours dans ma poche, tirai de mon carnet une carte que j'avais précieusement conservée, sans me douter qu'un jour elle me serait si utile, et je m'engageai dans le couloir cloisonné conduisant au logement de monsieur et madame Pickman. Devant la porte, je me recueillis un instant, puis je frappai. Ce fut Pickman qui vint m'ouvrir. « Ah, Colombo, mon cher Colombo, s'écria-t-il, quoi de neuf ce matin ?» Sans répondre, je fermai la porte au verrou, puis tendant à Pickman la carte d'Alan Dixon, cette carte que le grand détective m'avait remise naguère à la station de Waterloo, je prononçai d'un ton solennel « Richard Stone, au nom du roi, je vous arrête !»